La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, inventée il y a tout juste 40 ans ici, au cœur de la région Auvergne et toujours aussi populaire. Des films de fiction, des films documentaires, des films d'animation, mais aussi des films d'archives, comme dans la séance Cours d'histoire, dont RFI est partenaire depuis sa création il y a tout juste 9 ans. Au programme cette année, les films de mai 68.
La révolution est à l'ordre du jour et va faire danser Paris. Lundi 6 mai, la Sorbonne est cernée par la police et les gardes mobiles. Les étudiants exigent la libération immédiate de leurs camarades emprisonnés, la levée de toutes les sanctions, le départ des forces de police du quartier latin, la réouverture des facultés, le droit à la libre activité politique dans l'université, la démission du recteur Roche.
Et pour refaire la séance cours d'histoire, nous retrouvons comme chaque année Georges Bollon. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes cofondateur du Festival de Clermont-Ferrand et à l'initiative de ce cours d'histoire pour lequel vous avez convié l'historien du cinéma Sébastien Layerle. Bonjour.
Bonjour.
Alors je précise que vous avez longuement étudié les films de 68 et que le fruit de vos recherches a été publié dans un livre intitulé « Caméra en lutte en mai 68 ». Alors avant de parler des films et de les entendre, puisque c'est le principe de cette émission, j'aimerais que chacun de vous puisse me donner un peu sa définition de mai 68. Georges, mai 68 à Clermont, ça évoque quoi pour vous ?
Alors moi j'étais pas à Clermont, j'étais à Nevers, oui. J'étais adolescent et donc j'ai participé comme adolescent aux manifestations, etc. qui pouvaient se passer dans cette période et j'ai rejoint un comité d'action et plus tard un groupe politique. Qui était dans cette tradition.
Donc vous en gardez un engagement, c'était le temps de l'engagement pour vous ?
Oui, mais moi je considère que mai 68 a été formateur pour moi, oui, qu'un certain nombre de choses, y compris d'ailleurs dans le fonctionnement du festival, correspond à l'idéologie qui était développée dans cette période. Mai 68 étant peut-être, si je prends un terme cinéma, le climax de toutes ces luttes qui ont pu avoir d'un point de vue de l'organisation, etc. Mais que voilà, c'est une période où l'idéologie dominante faisait que, bon, on envisageait les choses en commun. Par exemple, dans la création de ce festival, c'était évident que tout le monde était payé au même niveau et qu'il n'y avait pas de chef et que tout se décidait en commun.
Alors vous, Sébastien Layerle, qu'est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ? Qu'est-ce qui se passe au fond dans la société française pour les travailleurs et pour les étudiants ?
Eh bien, il me semble que mai 68 marque tout d'abord une remise en cause des statuts établis. C'est une universitaire américaine qui s'appelle Christine Ross qui a publié un ouvrage « Mai 68 et ses vies ultérieures » qui a porté un regard assez nouveau, assez différent sur les travaux notamment historiques portés sur mai 68 et qui explique précisément qu'en mai 68, on assiste à des tentatives de déclassification, de remise en question des positionnements sociaux.
C'est-à-dire que les ouvriers, par exemple, ne veulent plus être des ouvriers tels que on leur renvoie une image d'ouvrier ?
Exactement. Les étudiants cessent de fonctionner comme des étudiants, les ouvriers comme des ouvriers, et les paysans comme des paysans. Donc une remise en question qui d'ailleurs précède les événements de mai 68, puisque dès le milieu des années 60, d'abord il y a un malaise étudiant dans les universités, une remise en question des modes d'enseignement, et même du devenir des étudiants, sur une remise en question de la société capitaliste, et également du côté des ouvriers, qui dès 1967, une partie d'entre eux en tout cas, vont se lancer dans des conflits sociaux extrêmement durs, extrêmement radicaux.
Alors quel rôle a le cinéma dans ces années 68 ? C'est la question qui va traverser cette émission. Est-ce que le cinéma enregistre objectivement ce qui se passe ou bien est-ce que la caméra est actrice de la lutte ?
Jeudi 2 mai, le gouvernement lock-out la faculté de Nanterre. Vendredi 3 mai, il lance sa police contre les étudiants. La Sorbonne est envahie, les étudiants arrêtés. Spontanément, leurs camarades se mobilisent. D'énormes renforts de police convergent vers la capitale. Sur le terrain choisi par le pouvoir, une bataille s'engage dont il va perdre l'initiative politique.
Qui est la bourgeoisie française et qui est une partie intégrante de la bourgeoisie internationale. Et nous ne vaincrons pas cette bourgeoisie avec un optimisme, avec une improvisation jour le jour. Il faut commencer à réfléchir à tous les moyens à se donner, à mettre en œuvre.
Tout, désormais, se joue dans la rue.
Alors Sébastien, parlons du premier film intitulé « Ce n'est qu'un début ». C'est un film produit par un collectif qui s'appelle le groupe Arc, tourné en pellicule 16 mm, je dis ça pour les plus jeunes, hein, à l'époque c'était des pellicules analogiques. Qui sont ces jeunes cinéastes? Quel rôle au fond ils se donnent dans ces premiers jours du mois de mai?
Ce sont effectivement des collectifs qui vont être actifs dès les premiers jours du mois de mai 68 et des collectifs qui se sont formés avant les événements. C'est le cas du groupe ARC qui s'est constitué dans le courant de l'année 1967 et qui réunit de jeunes réalisateurs, scénaristes, monteurs, opérateurs images qui se retrouvent autour d'un projet de réalisation de films engagés, de films militants en prise avec l'actualité.
Est-ce qu'ils sont forcément liés au parti communiste? Parce que jusqu'à présent, dans l'histoire, les cinéastes engagés sont des cinéastes en général communistes ou syndicalistes CGT.
Non, ils sont en rupture avec le Parti communiste et ce, dès le début des années 60. Ils ont beaucoup milité au moment de la guerre d'Algérie. Certains ont aussi rejoint des organisations d'extrême gauche à partir du milieu des années 60, 66-67. D'autres sont proches de l'Internationale situationniste. Donc c'est un groupe qui est pluriel sur le plan idéologique, mais qui se retrouve autour d'un projet de cinéma. C'est ce qui fait l'union de ce groupe.
Alors écoutez bien l'extrait suivant. Il commence par la voix de Daniel Cohn-Bendit. Il fait à l'époque partie des leaders de l'université de Nanterre. Celui qui deviendra un député vert est alors surnommé Dany le Rouge.
C'est pas notre propos ici de faire de tout le monde des anarchistes, des trotskistes, des machinistes ou qui que ce soit. Il n'existe pas pour nous d'anarchistes. Il n'existe des actions révolutionnaires. Et tous nous pouvons y participer, drapeau rouge ou noir, les drapeaux rouges et noirs.
Ce geste brise symboliquement le rapport d'autorité. Des chairs sont prises d'assaut, critiques en acte du rapport enseignant-enseigné. Les manifestations solidaires des luttes étudiantes à l'étranger se multiplient. De plus en plus, c'est l'affrontement direct avec les flics. Dans l'action, la preuve se fait que les méthodes traditionnelles de lutte perdent leur sens. Un débat permanent s'installe. Une minorité agissante balaye la routine des revendications traditionnelles et révèle l'université pour ce qu'elle est. Une machine à fabriquer les chiens de garde de l'économie, le lieu où s'élabore l'idéologie de la société capitaliste.
L'université, bras armé du capitalisme, c'est ce que dénonce le film militant du collectif Arc à travers la voix de Michel Andrieux. Alors cette dénonciation du capitalisme semble railler tout le monde, les étudiants comme les ouvriers. C'est le souvenir que vous gardez de 68, vous aussi, Georges Bollon?
Oui, c'est la grande question du mois de mai. Moi, ce que je me souviens, c'est effectivement les tentatives qui vont fonctionner dans un certain nombre d'endroits, de rapprochement entre étudiants, lycéens, puisque moi j'étais lycéen à l'époque, et ouvrier. Mais il y a aussi des endroits où les choses se passaient beaucoup moins bien et où il y avait, il faut dire, une sorte de rupture, en particulier du fait du Parti communiste qui voyait tous ces jeunes gens de façon un peu méfiante, plus que méfiante même, disons.
Est-ce que ce mot d'ordre commun anticapitaliste, si on devait retenir qu'un mot d'ordre, est-ce que ce serait celui-là, Sébastien Layard?
C'est un mot d'ordre important, ce n'est pas le seul. Je dirais que c'est finalement le anti qui revient.
Qui compte plus que capitaliste.
Qui est aussi important, mais qui finalement se retrouve également dans d'autres formulations, comme anti-impérialisme, anti-autoritarisme, qui sont effectivement des mots d'ordre que l'on retrouve dans les discours de 68.
Et bien sûr, anticolonialiste.
Et anticolonialisme, effectivement. La guerre du Vietnam joue un rôle très important durant cette période. Hein, c'est un facteur de cristallisation d'un certain nombre de mouvements de contestation.
Yeah.
les affrontements sont extrêmement violents. Spontanément, les manifestants trouvent les armes de leur lutte. Pour se protéger et retarder les assauts de la police, ils construisent des barricades sommaires. Grilles d'arbres, panneaux de signalisation, voitures. À la matraque répond la barre de fer ou de bois prise sur un chantier. Une arme offensive, le pavé, arraché à la chaussée sur l'arrière, que des chaînes de main portent au front. Il y a plus de 1000 blessés. Ce n'est qu'un début. Dans la nuit du vendredi 10 mai, des dizaines de barricades vont s'élever dans les rues de Paris. Ils ébranleront la société. La classe ouvrière prend le relais tendu. C'est la grève générale. Les enragés ont fait des petits. La rage en France est une maladie contagieuse.
La rage en France est une maladie contagieuse, c'est ce que nous dit le commentaire du film. La rage en France est une maladie contagieuse, référence à l'extension du domaine de la lutte initiée par des étudiants qui finiront par être rejoints par des ouvriers, jusqu'à cette grande grève générale, la plus massive que la France ait connue. Et pourtant, le milieu ouvrier était dans une crise sociale depuis un bon moment. Est-ce que les cinéastes s'y étaient intéressés, justement ?
Dans le film, ce n'est qu'un début. Précisément, il est fait référence aux grèves de Caen, de Redon, qui sont des grèves qui ont eu lieu au début de l'année 1968 et qui sont des grèves qui sont assez nouvelles dans leur déroulement. On parle de grèves sauvages, c'est-à-dire de grèves avec occupation, très dures, très violentes, qui parfois amènent précisément à des affrontements avec les forces de l'ordre et dont on retrouve la trace aussi des 67. Je pense notamment au conflit de la Rodiaceta, qui a été aussi filmé par des équipes proches de Chris Marker. Donc c'est un mouvement qui est connu de certains cinéastes. Et ce qui est intéressant dans le film Ce n'est qu'un début, c'est qu'il y a cette volonté de resituer mai 68 à la fois dans une contestation étudiante, d'où viennent les cinéastes de l'art qui sont proches du mouvement du 22 mars, mais également de montrer, de mettre en évidence également cette crise ouvrière qui se manifeste à travers ces conflits parfois localisés.
Je vais vous faire voir un cocktail Molotov. Dans une bouteille, une certaine proportion d'essence. Ensuite, vous continuez avec de l'huile. Et ensuite, vous versez quelques cuillères d'acide sulfurique.
Étudiant sur le mouvement ouvrier.
Alors, c'est effectivement une question qui est soumise à débat sur le moment même et même par la suite. Donc, y a-t-il eu un effet d'entraînement ? Très certainement, la date qui joue un moment de basculement, c'est la date du 13 mai 1968, qui est un moment de grève, une journée de grève générale et de manifestation à l'appel des syndicats ouvriers pour dénoncer les répressions, les violences policières au quartier latin en soutien avec les étudiants, et qui va marquer déjà l'entrée en grève d'un certain nombre de sites, notamment en province. C'est le cas par exemple de l'usine Sud Aviation près de Nantes, qui va être l'une des premières à se mettre en grève à partir du 14 mai, donc dès le lendemain. Mais la question de l'entraînement va, elle, être soumise à débat, à questionnement, y compris dans les films de mai.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelle.
Georges Bollon, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que ça permet de rappeler que mai 68, c'est certainement pas un événement qui est parisien. Vous, vous l'avez vécu à Nevers, vous l'avez souligné. Donc comment, personnellement, vous vous souvenez de cette tentative de rapprochement entre les jeunes étudiants et les ouvriers ?
Je me souviens de diffusion de tracts à la porte des usines, alors en 68 et puis plus tard, dans les mois qui ont suivi, où c'était pas toujours simple. Je me souviens aussi que y avait un accueil d'un certain nombre de nos ouvriers qui était plutôt favorable, des gros problèmes avec d'autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maintenant tout ça est loin. Moi, ce que je retiens aussi, c'est quand même qu'il y avait de la curiosité, y compris par des gens qui nous étaient très hostiles. Et qu'il y avait quand même des discussions. Bon, des fois, les discussions se terminaient mal, hein, ça pouvait arriver. Alors, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un dirigeant du Parti communiste de l'époque, hein, qui maintenant a rompu depuis longtemps avec le Parti communiste et qui a quelques responsabilités cinématographiques sur Clermont-Ferrand. Et il me disait que pour lui, effectivement, l'échec, en quelque sorte, du Parti communiste actuellement remontait à cette période où, fondamentalement, le PC s'était coupé, en gros, de la jeunesse qui bouge, qu'elle soit étudiante, ouvrière, des idées nouvelles qui circulaient, etc. Quoi. Voilà, donc,
Et cette jeunesse qui bouge, Sébastien Laherle, n'est pas du tout issue, hein, de ce milieu ouvrier auquel elle s'intéresse, qu'elle va filmer. Ça, c'est une autre caractéristique de ces cinématographies des films de mai.
Du côté des cinéastes, effectivement, dont très peu sont issus du monde ouvrier. Donc il y a une frontière, une barrière qui va, dans certains cas, éclater en 68. C'est-à-dire des cinéastes vont justement essayer d'aller dans les usines, de tourner à l'intérieur même des usines. Donc quelques tournages existent, ont eu lieu, qui permettent de rendre compte du mouvement de grève à l'intérieur de certaines usines. Je pense par exemple à l'usine Renault de Flins qu'a filmé Jean-Pierre Thorne. D'autres vont aller jusqu'aux portes des usines en accompagnant les manifestants sans pouvoir y entrer. Mais leur volonté, au fond, c'est aussi de remettre en question, comme je le disais tout à l'heure en commençant, leur position de cinéaste. Cela d'ailleurs ira très loin, puisque certains d'entre eux vont même passer le miroir après 68, et de cinéastes militants, ils vont devenir militants, voire même travailleurs, ouvriers en usine, en suivant justement le mouvement déjà amorcé par l'UJCML avant 68, puis par la gauche prolétarienne dans la vague d'établissements en usine.
Donc il semblerait que ces caméras en lutte soit inscrite dans un militantisme plus que dans une observation ou un enregistrement cinématographique des événements.
Je pense que c'est plus complexe que cela. Il y a à la fois la volonté donc de s'engager en utilisant la caméra, mais aussi de témoigner. L'utilisation du film est un moyen aussi de garder mémoire de ce mouvement dont on sent effectivement que c'est un mouvement d'ampleur, inédit aussi par ses enjeux et son devenir possible. Et ces images, elles s'inscrivent dans un contexte médiatique plus large. Donc la présence de la télévision ou des actualités filmées par exemple, qui, dans le débat de 68, sont considérés comme des organes d'information sous contrôle. Donc ce qui guide également ces cinéastes de mai 68, c'est une contre-information. La volonté aussi d'opposer une autre information, mais aussi une autre mémoire possible des événements à plus long terme.
À 17h15, la tête de la manifestation arrive gare Saint-Lazare.
Effectivement, on pleure et on pleure pas mal. Les étudiants scandent des mots d'ordre. Eh bien, vous l'entendez, les étudiants scandent De Gaulle assassin. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Et c'est la suite de La Marche du Monde enregistrée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes à l'écoute de mai 68. C'est le thème cette année de la séance cours d'histoire, initiée par Georges Bollon et commentée par l'historien Sébastien Laherle, spécialiste de la question de l'engagement au cinéma. Au programme, trois films, Ce n'est qu'un début, La reprise du travail aux usines Vonder et tout de suite, Cheminot.
la kermesse et un standard, je les révolte.
Je promets les actions montent, acheter action au journal de l'UNEP.
Il savait qu'il y avait des affiches, mais on va faire un nouveau style que nous voyons en France. Cette variété d'affiches, de toute opinion et de toute tendance. Ça ressemble un peu au mur de Pékin.
Donc vous venez d'entrer ici, quelle impression ça vous fait?
Ça m'a impressionné. Les drapeaux rouges, drapeaux noirs, on dit mince, on va se faire tuer ici. Puis il y a les gars de chez Mao, là-bas, on n'est pas trop d'accord avec eux. Alors.
C'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif?
Ma présence ici?
Oui, c'est l'impression.
Eh bien, on a une espérance parce qu'on voit qu'il y a des gars intelligents, qui, puisqu'ils sont ici, ils sont intelligents, je suppose. Hein. On en est même sûr. Alors, eux, ils cherchent la construction du monde nouveau. Ce monde nouveau que nous, les travailleurs, nous espérons de toutes nos forces et de tout notre cœur. Surtout que ce désir et cette mise en route a été fait par des jeunes qui, eux, ne sont pas soumis à toutes nos impressions de vieux. Nous qui avons vécu la vieille époque, qui a eu ses valeurs, qui a été nécessaire, mais qui maintenant est périmée et qui doit laisser la place à un monde jeune, à un monde qui, lui, est à l'unisson et est à l'écoute de ce qui se passe. Quand on est vieux, on n'a plus cet intéressement et cette ouverture d'esprit qu'ont les jeunes.
Vous venez d'entrer ici et déjà il y a tout un groupe de jeunes autour de vous. Ça vous fait...
grand plaisir, oui. Parce qu'il y a possibilité de contact et d'explication.
Georges Boulon, en termes de réalisation, qu'est-ce qui caractérise l'écriture de ces films de mai? Est-ce qu'ils sont aussi révolutionnaires que les événements de mai eux-mêmes?
Alors ça c'est une autre question, hein. Ça c'est l'éternel débat. Bon, ce film-là c'est un plan séquence, hein. C'est un peu comme l'autre film qu'on a passé, la reprise du travail aux usines Vondère. Donc ce qui m'intéresse moi dans ce film c'est son côté un peu ovni par rapport à tout le reste du cinéma militant de la période, c'est-à-dire ce cheminot qui était en grève, enfin qui se trouve bloqué sur Paris, puisque lui je crois qu'il est de Tarbes, qui d'ailleurs au passage, ça c'est le réalisateur Fernand Moscovici qui nous l'a dit, puisqu'il l'a trouvé des années plus tard, c'est un des deux cheminots qui a refusé pendant la guerre de conduire les trains de déportés. Donc c'est quelqu'un aussi qui a tout un background, toute une pensée et tout. Et ce cheminot, bon, on pourrait penser il est révolutionnaire, il est une organisation trotskiste, ou, etc. Enfin, il n'est pas maoïste, visiblement, puisque les maoïstes lui font peur. Non, pas du tout. Il est chrétien, il l'affirme devant les étudiants gauchistes, il est même catholique, et le pape a une certaine autorité sur lui. Et en même temps, il dit, mais je suis d'accord avec ce que vous défendez, ce que vous voulez. Et tout le discours qu'il va tenir est un discours, c'est incroyable. Quand on voit le film, on se dit, mais est-ce qu'il ne parle pas de maintenant, hein, je veux dire, parce que finalement, il parle de l'exploitation, quoi. Hein, je veux dire, est-ce que la technique est au service de l'homme ou au service du profit tout. Et c'est d'une simplicité qui est absolument désarmante.
Nous allons poursuivre l'écoute de ces films utopiques et collectifs. Donc après le court-métrage, ce n'est qu'un début. Nous avons entendu la jeunesse française faire face aux forces de l'ordre au Quartier Latin, puis lancer son mouvement révolutionnaire le 22 mars 1968 à la faculté de Nanterre. Nous poursuivons l'écoute de Cheminot, de Fernand Moscovici. Le cinéaste, vous l'avez dit, est allé à la rencontre de Charles Valroux et il demande au Cheminot, face caméra, quelles sont ses revendications.
Alors on n'est pas obligatoirement d'accord avec tout ce qui se dit ici, tout ce qui se passe, tout ce qui s'écrit, mais nous les travailleurs, nous les ouvriers, nous voulons notre volonté c'est que le monde change, c'est que les dirigeants changent et que les dirigeants créent des lois à l'unisson de la technique qui se développe de plus en plus. En un mot, que tous les hommes aient le droit à la vie, et non pas simplement une petite partie qui profite de la technique et de l'automation qui existe, qui se développe de plus en plus dans le monde. Nous arriverons à un point où une petite partie de gens intelligents, ou bien leurs combinards, on pourrait dire, arriveront à avoir de grosses fortunes, et la grosse majorité du peuple travaillera la petite semaine, selon les besoins de quelques-uns, et dans n'importe quelle condition. On voudrait que chacun prenne conscience que dans le cadre de cette société qui se crée demain, on fasse en sorte que la machine soit au service de l'homme, et non l'homme au service de la machine, et par extension, au service du capitalisme. Il y a 500 000 chômeurs, maintenant il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, c'est la fin de tout. Alors, on le constatait, nous, dans la classe ouvrière. On disait d'autre part qu'on n'arrête pas le progrès, puis on restait là, on ne bougeait plus. Alors c'était les pieds et mains liés, on ne bougeait plus. Alors ce qui était formidable, c'est que le mouvement étudiant a démarré, que lui a vraiment posé le problème. Que les institutions actuelles n'étaient plus en rapport avec les nécessités du moment, et qu'il fallait refaire une société nouvelle. Voilà pourquoi je suis venu, j'ai accepté de venir aujourd'hui au milieu de tous ces camarades qui cherchent, comme nous, ce qu'il faut faire.
Voilà pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui au milieu de tous ces camarades à l'université, dit Charles Valroux à un cheminot, à la Sorbonne. De votre point de vue d'historien du cinéma, qu'est-ce qui est remarquable pour vous dans ce film ?
Je dirais que c'est ce choix, c'est-à-dire le choix du réalisateur de proposer à Charles Valroux, qu'il a rencontré peu de temps auparavant dans un dépôt de la SNCF de la Porte d'Ivry, où il a filmé les revendications des cheminots grévistes, lui proposer d'aller visiter la Sorbonne et de partir à la rencontre des étudiants. Il dispose de très peu de pellicules, deux, trois bobines, puisque le film dure une vingtaine de minutes, et donc il va parier sur la rencontre, les rencontres possibles, d'abord sur les abords de la Sorbonne, et puis ensuite à l'intérieur de la Sorbonne, et là, la discussion s'engage.
J'aurais bien voulu poser une question à monsieur, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'il reproche, par exemple, aux gens qui exposent les stands des Mao Tse-Tung.
On a peur.
On a peur. Qu'est-ce qui vous appréhende là
Mais moi, ce qui fait peur, c'est qu'il y a des libertés essentielles qui sont supprimées.
Mais vous ne croyez pas que c'est une façon d'exprimer une certaine liberté?
Dans un certain sens, oui, mais moi, ça m'embête parce que je suis chrétien.
Oui, mais... Par exemple, exposer les portraits de Mao Tse-Tung n'est pas incompatible avec le sentiment d'être chrétien qu'on a.
Oui, mais alors là, c'est très difficile parce que là, nous arrivons sur le plan doctrine. Alors là, on ne peut pas être d'accord. Maintenant,
on est en train de parler de généralité.
Je vous répète que nous ne mettons pas en doute la volonté de Mao Tse-Tung de vouloir faire un monde
non,
vrai, parce que le monde, le tiers-monde, ce que nous appelons le tiers-monde, a été asservi pendant des siècles par les Blancs et qui malheureusement était chrétien. C'est vrai.
Mais, non, mais c'est un exemple que j'ai pris. J'ai pris par exemple l'exemple de Mao Tse-Tung, comme j'aurais pu prendre l'exemple du Parti communiste français ou bien
de
Trotsky. De Mao Tse-Tung, c'est un exemple.
D'accord,
mais moi, quand je parle de Mao Tse-Tung, par exemple, qui est un exemple que j'ai choisi comme ça, c'est pour vous montrer que les gens qui luttent, ils luttent pour quelque chose.
D'accord.
Mais qu'on ne vienne pas nous dire, par exemple, quand on obtiendra une action, on dira, en mettant Dieu en tête, c'est une sorte d'aumône qu'on fait à ces gens-là.
Ah, il ne faut pas que ce soit une aumône.
Mais oui, mais
c'est un droit.
Or, la lutte, par exemple, que les étudiants sont en train de mener, ils essaient d'arracher quelque chose. C'est une chose qu'ils ont d'abord demandé, on l'a leur refusé. Mais ils essaient de l'arracher. Mais que ça ne soit pas quelque chose que Dieu envoie, parce que Dieu veut bien l'envoyer.
Non, nous n'étions pas sur ce problème tout à l'heure. Vous m'avez demandé qu'est-ce que me faisait le stand de Mao Tse-Tung. Nous, ça nous fait peur.
Non, mais j'ai parlé du stand de Mao Tse-Tung parce que vous avez fait allusion. Dit, ça vous fait rire quand vous voyez, par exemple...
Mais à pas rire, non, pas rire, pas rire. J'ai pas dit que ça me faisait rire.
Non, mais
que ça me faisait peur, c'est très différent.
Ah, ça vous faisait peur, mais justement...
Ça me fait peur parce que...
Ça vous fait peur.
Nous savons ce que c'est, quoi. Nous pensons ce que c'est. Mais nous ne voulons pas dire que c'est négatif. Nous ne voulons pas dire que c'est pas... qu'il n'y a pas du positif, au contraire, puisque c'était la seule solution pour ces peuples asservis de pouvoir se sortir de là. Nous sommes réalistes, nous voyons les choses en face. Hein. Maintenant, je vous dis, moi, pourquoi je suis aujourd'hui ici et pourquoi le sang de Mao Tse-Tung me fait peur, c'est tout. Hein? Maintenant que vous soyez rempli de bonne volonté pour construire un monde nouveau, chapeau, c'est très bien, c'est au poil, on est là-dessus, on est d'accord.
Comment tu as trouvé ça?
Ah, formidable, formidable. Discuter avec des maoïstes, enfin, tout un tas de gars, tout l'éventail d'idées, d'opinions qui existent en France. Hein. Puis malgré tout, des gars de bonne volonté, tous, hein, qui essayent de reconstruire un monde nouveau, bien que nous ne soyons pas trop d'accord. Bon, je reviendrai, oui, ces jours-ci avant de partir à Tarbes. Discuter à nouveau avec les copains de chez Mao.
La marche du monde est à Clermont-Ferrand pour partager avec vous la séance cours d'histoire. Avec Sébastien Layer, le historien du cinéma, et Georges Bollon, à l'initiative de cette belle séance que RFI accompagne chaque année, les cinéastes font leurs états généraux du cinéma en 68. D'un mot, de quoi s'agit-il, Sébastien Layer ?
Alors, on appelle l'état généraux du cinéma, au fond, la mobilisation des professionnels du cinéma, qui intervient le 17 mai 1968, c'est-à-dire assez... tardivement, au fond, dans la chronologie des événements de mai 68, et une assemblée qui va prendre un certain nombre de décisions, un mot d'ordre de grève générale et illimité pour l'ensemble de la filière cinématographique, l'interruption du Festival de Cannes qui va être très médiatique.
C'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Et également de la création de groupes de réflexion pour réformer, dans ce contexte, dans cette parenthèse de mai 68, pour réformer, parfois en profondeur, les secteurs du cinéma. Mais ce qui est le plus marquant, je dirais, c'est la volonté, parmi ces états généraux du cinéma, d'un certain nombre de réalisateurs, de techniciens, plus jeunes, plus politisés, de mettre les caméras au service du mouvement étudiant et ouvrier, et de réaliser des films sur les événements en cours.
Alors je vous propose justement d'écouter le témoignage de Jacques Villemont. Il était justement présent à la séance cours d'histoire que nous refaisons aujourd'hui dans la Marche du Monde. Il est venu témoigner de son expérience autour du film La reprise du travail aux usines Vendeur.
Dans la matinée du 10 juin 1968, après 3 semaines de grève et occupation d'usines, les ouvriers de Vendeur à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Le jour même, à 13h30.
Voyez les ouvriers de la maison rentrer, s'il vous plaît.
Eux, ils estiment que c'est un accord, alors que les syndicats n'estiment que c'est pas un accord.
Non, c'est pas un accord.
Alors qu'eux, ils estiment que c'est un accord. Eux le présentent et imposent des votes sur les accords de Grenelle. Et c'est sur ces bases-là.
Le vote qui a été effectué ce matin, c'est sur la reprise ou la non-reprise du travail.
Ce qui était totalement différent. Ça a été trompé, ça a été machiné, tout ça.
C'est là que ça a
fauché
les choses.
Ils ont été trompés.
Mais oui,
oui, oui, vous pouvez me regarder, vous êtes dans les premiers, vous, là.
Mais il faut savoir dans quelles conditions.
On peut faire une gueule comme ça, hein. Ça va pas, hein.
On peut continuer. Silence. On peut comprendre.
Tu sais que si je ne me reconnais pas celui-là là-bas, hein.
Avec l'augmentation du coût de la vie, ils prennent tout en main.
Mais ça sera aux travailleurs, non pas au patron de chez Vendeur, mais aux travailleurs d'exiger qu'il n'y a pas une chose. Les choses vont se faire. C'est une étape, je dis bien.
Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il était amené.
Ils ont reculé, ils ont reculé.
Le salaire, ils ne voulaient pas en entendre parler.
Il augmente de 10%.
Les paiements et récupérations des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qu'ils voulaient vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule.
50% même si de la valeur des heures perdues.
Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. Là, ils sont du temps de travail, il a mis.
Mais pourquoi, tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein.
Mais
oui, tiens.
Pas tous les travailleurs.
Ça, c'est ça.
Non, mais il y en a pas mal.
Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité bien conscients de ce qu'ils ont fait. Hein. Et c'est ça qu'ils font.
C'est pas fini.
Comment je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer. C'est pour.
Ils vont être comme ça maintenant.
Ils représentent.
Plus de 200 syndicats maintenant. Eh bien, c'est là l'important. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Vendeur. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est là l'important, et c'est là la victoire, je crois, des travailleurs de chez Vendeur.
Écoutez le réalisateur Jacques Villemont, il est venu témoigner de l'expérience de son film.
Pour bien comprendre ce qui se passait, qui m'étonnait et auquel je n'étais pas préparé, je me dis la meilleure solution, c'est de faire un film. Si je fais un film sur tous ces mouvements, en particulier les mouvements trotskistes, je vais comprendre quelque chose. Et donc j'ai fait un film pour apprendre. On ne savait pas très bien ce qu'on allait faire. On a fait 2-3 plans, dont celui qui est au début du film.
C'est-à-dire
un plan de présentation générale, c'est un réflexe de cinéaste.
On fait un plan de l'usine.
Voilà. On fait le plan, et puis on hésite, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, quand on entend la voix, celle que les auditeurs vont entendre. Et que, dès qu'on l'entend, on est accroché. Surtout, vous avez entendu les mots. On ne travaillerait pas. C'est fabuleux ce qu'elle dit. C'est une révolte. C'est les tripes qui parlent. On sent que cette femme est peu éduquée, son vocabulaire et tout, etc. Mais alors, quelle force! Et c'est ça qui nous retient. Et du coup, c'est moi qui dirige le tournage, et je dis à Pierre Bonneau, qui tient la caméra, arrête pas, continue, filme. Et donc, il va faire ce plan séquence. C'était tellement idéal qu'il y a quelqu'un qui, en 68, 69, je ne sais plus, pensait que c'était un film de fiction, qu'on l'avait mis en scène. C'est vrai que c'est... c'est trop beau.
Ce qui me frappe dans votre film, Jacques Villemont, c'est que cette femme, on l'entend, elle a une voix puissante, elle crie, vous l'avez dit, elle ne veut pas céder, elle ne veut pas arrêter de faire grève. C'est non seulement son cri qui vous interpelle et que vous allez filmer, mais c'est aussi son dialogue avec des représentants syndicaux qui, eux, viennent de faire une négociation.
Oui. Ben là, ce qui est clair, c'est que il y a là, je ne parlerai pas de sexisme, mais je parlerai de sous les deux rapports de, où c'est les hommes et une femme. Ils sont âgés, elle est jeune, relativement jeune. Donc quelque part, je veux dire, il lui autorise une parole libre parce qu'on vient de passer un mois où, comme l'a dit Certeau, on a pris la parole. Donc je crois que dans d'autres circonstances, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait laissé parler. Là, on est en 1968, on prend la parole. Ça fait un mois qu'on le fait. Donc, il la laisse parler. Mais je suis toujours certain qu'ils ont été dépassés par ce qu'elle disait. Parce que c'était une femme. Ça aurait été un homme, ça aurait été probablement un autre type de discussion. Ils auraient argumenté, on discute dans notre temps. Là, ils ont été dépassés par cette femme. Et ça montre la force des femmes lorsqu'elles veulent vraiment agir, prendre le pouvoir. Là, moi, j'ai vu, il y a 10 ans, j'ai fait un film sur Nantes en 68. Et j'étais étonné de voir le nombre d'articles dans la presse qui disaient que les femmes en 68, il n'y a pas de femmes. Cherchez dans les photos. Elles sont au mieux sur les épaules des garçons en tenant un drapeau. Allez voir les discours. Il y en a eu, alors il y a elle, et il y en a une deuxième femme qui a pris la parole, je crois, Sébastien doit le savoir mieux que moi, mais c'est tout.
Alors Sébastien Layard, je vous pose la question, où sont les femmes dans les films de 68 ?
Alors il y a effectivement un autre film dans lequel une ouvrière va prendre la parole. C'est un film qui s'appelle « Classe de lutte » qui a été réalisé entre le mois de mai 1968 et la fin de l'année, le début de l'année 69 à Besançon. Et c'est une ouvrière qui, en mai 68, va prendre la parole en appelant ses collègues à continuer à poursuivre le mouvement de grève malgré justement les intimidations des cadres de l'usine.
Mais plus largement, où sont les femmes ? Est-ce qu'elles sont présentes ou absentes ?
Elles sont absentes. Dans les films de mai 68, elles sont absentes, quasiment absentes, effectivement, à l'exception de ces deux films, Vonder et Classe de lutte.
Georges Boulon.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elles sont absentes dans le sens prise de parole, en quelque sorte. Mais sinon, dans les images, elles sont quand même très présentes. Hein, que ce soit dans les assemblées générales de l'université, dans les manifestations, les femmes sont très présentes. Alors effectivement, au niveau de la parole, ça, je bien évidemment. Alors, ça me ramène encore un peu à moi, mais dans le groupe de lycéens qu'on était, il y avait beaucoup de lycéennes. Hein. Je ne pourrais pas faire la proportion, je ne sais plus, mais c'était un groupe très mixte.
Alors, pour les syndicalistes du film, la reprise du travail aux usines Vonder, c'est une victoire puisqu'il y a eu cette négociation avec le gouvernement qui a abouti sur les accords de Grenelle. Donc, on va pas revenir sur les accords de Grenelle, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir le point de vue de Jacques Villemont, qui est réalisateur de la reprise aux usines Vonder et qui met en scène justement cette notion de victoire pour les syndicalistes, et cette notion de défaite pour cette jeune femme donc, qui prend la parole.
Les syndicats étaient contents, c'est vrai. Hein. J'ai filmé tous les syndicats du monde à Nantes, il y a ça 10 ans, 12 ans, ils étaient contents. Ils avaient obtenu, mais quand aujourd'hui on ne se rend pas compte, ils avaient obtenu des gains extraordinaires, économiquement, mais surtout le fait qu'ils pouvaient avoir une permanence dans les usines, ça n'existait pas. Pour le mouvement syndical, c'était une très grande victoire. Et puis les gens ont eu entre 10% et 25% d'augmentation. Pas mal. Bon, comme l'inflation qui les années qui suivaient était énorme, en fait, au bout de 2 ans, c'était quasiment perdu. Mais ça existait. Les gens sont rentrés avec l'impression de ne pas avoir perdu un mois pour rien. Ça a changé. Il y a eu un mouvement extraordinaire d'évolution dans des rapports sociaux, parentaux, par rapport à la religion, etc. Ça, il y a une vraie révolution. Mais notre grève générale du monde ouvrier n'a pas donné les résultats qu'on aurait pu espérer. Donc les étudiants, eux, c'est une victoire. On jette papa, le curé, je ne sais pas quoi, et le prof aux orties. Et pendant quelques temps, moi je me rappelle, je suis la plus âgée ici, donc je m'en souviens bien, les premiers cours étaient des cours, je veux dire, dans lesquels il y avait une véritable interaction entre l'enseignant et les étudiants. Ça a duré 8-9 ans et hop, cour magistrale est revenue comme avant 68. Mais pendant un moment, il y a eu, pour les jeunes, l'impression que le monde leur appartenait. Les ouvriers, bon, bah, on fera mieux la prochaine fois.
Voilà, ça a l'air. Le tourlier, vous l'avez mis en échec sur tous les plans. Hein. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver. C'est peut-être vrai.
On n'a rien, on est de semaine en mois de vacances. C'est
ça que t'as mis. Il s'est engagé, il a reculé. Il a reculé.
Mais oui, tiens, il a reculé. Il est tellement...
Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vigilants.
C'est un futé, ce bonhomme-là.
On sera vigilants dans la mesure où on sera tous unis et tous ensemble. Si on est chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec
non, moi, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillote avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec...
Tu disais ça il y a trois semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est
ben
pas...
Oui.
Hein, c'est pas fini.
Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. Bah, t'as fait promis.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit, chez Mondeur, ça sera plus jamais.
Non, c'est par trentaine.
C'est une victoire, tu entends.
Mais ce qui se passe, c'est une victoire, voyons. Tu m'as pas dit que vous avez des salaires dégueulasses, des conditions de travail dégueulasses. Je le sais.
Ouais.
Mais bien sûr...
58 000 francs par mois, non mais... C'est qui a vu jouer ça, lui.
Je sais très bien que
vous avez 58 000 francs. Chez Vondère,
il vient de là. Pour se faire soigner, il faut qu'ils attendent une demi-heure, je le sais.
C'est dégueulasse. On est noirs, on est des vrais charbonniers quand on sort de là-dedans. On a même pas d'eau chaude pour se laver. Bien sûr, eux, ils ont des lavabos, ils ont tout... Nous, c'est dégueulasse chez nous.
Ah, il te fâche pas, fâche pas.
C'est pas
rodeau. Même pas besoin d'aller aux chiottes, on n'a pas le droit. D'aller aux
chiottes.
Fais ça, mon bon.
Dans le calme.
C'est ça.
Je répète, les gens de chez Vondère, rentrez, reprendre votre travail tranquillement.
C'est ça. Une semaine en moins.
Je suis fier d'avoir eu envie de faire un film sur les mouvements trotskistes, parce qu'à l'époque, personne ne faisait, tout le monde faisait des slogans. Enfin, il y en a quelques-uns qui, en effet, ont plus de richesse, celui en particulier sur le cheminot est un grand film, parce que j'ai souligné tout à l'heure la modernité de ce qu'il dit au départ de son truc. Mais les autres faisaient quand même des films qui étaient des images et des sons mis sur des idées. Donc je suis content d'être parti un peu à l'inverse des autres et d'avoir dit, mettons notre caméra au service de... Qu'est-ce qui se passe autour de moi? On va essayer de comprendre. Laissons-leur la parole. Moi, je suis toujours ému quand j'entends ce cheminot, quand je rentends Jocelyne, parce que je, même si ça n'a pas été ma vie, je l'ai frôlé assez pour savoir combien, pour tous ces gens, elle nous le crie comment c'est l'horreur de sa vie. Ça, jusque-là, dégueulasse, pas les autres. Censé. Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'aurais aimé le savoir. Et c'est mon plus grand manque, car le véritable auteur du film, c'est Jocelyne. Nous avons été à son service. Et j'aurais aimé lui dire.
Ben c'est fait. La voix de Jacques Villemont, réalisateur de la reprise du travail aux usines Vondère, ému de réécouter la voix de Jocelyne, car Jocelyne, l'ouvrière de chez Vondère, donc, hurle sa colère, elle ne veut pas reprendre le travail. C'est un film d'une force incroyable, Sébastien Layerle. Un film qui donne la parole, c'est une des leçons peut-être de ce cours d'histoire sur les films de mai 68. Et j'aimerais que vous puissiez lire à nos auditeurs un passage du livre de l'historien Michel de Certeau, La prise de parole.
Voilà, il s'agit effectivement de textes qui ont été publiés dans les mois qui ont suivi. Michel de Certeau, historien, donc, porte un regard sur cette histoire immédiate et notamment sur ce moment important pour lui qu'a été 68 et la prise de parole. Je cite donc ses propos. « En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. De la prise de la Bastille à la prise de la Sorbonne, entre ces deux symboles, une différence essentielle caractérise l'événement du 13 mai 1968. Aujourd'hui, c'est la parole prisonnière qui a été libérée. Quelque chose nous est arrivé, quelque chose s'est mis à bouger en nous, émergeant d'on ne sait où, remplissant tout à coup les rues et les usines, circulant entre nous, devenant notre, mais en cessant d'être le bruit étouffé de nos solitudes, des voix jamais entendues nous ont changé. Du moins avions-nous ce sentiment. Il s'est produit ceci d'inouï, nous sommes mis à parler. Il semblait que c'était la première fois, de partout sortaient les trésors, endormis ou tacites, d'expériences jamais dites, une vie insoupçonnée surgissait.
Merci Georges Boulon et merci Sébastien Lagarde. Ainsi s'achève cette 9e édition de Cours d'Histoire à la radio, en partenariat avec la séance Cours d'Histoire du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, enregistrée au cinéma La Jetée à Clermont-Ferrand, au son de l'œuvre de Pierre-Henri et de Michel Colombier, composée en 67. C'est la fameuse Messe pour le temps présent. Les films de mai 68, c'était une émission signée Valérie Nivelon, Elliot Bourrel et Marc Fichet. Retrouvez toutes nos infos sur la page de l'émission sur RFI.fr. Exprimez-vous sur le Facebook de La Marche du Monde. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.